art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Dans cette émission sur les arts sacrés, nous nous attachons à faire une part certaine à l'Ancien Testament. C'est le cas aujourd'hui avec le prophète Isaïe. Pendant la période liturgique de l'Avent, selon l'année, les catholiques entendent, le dimanche en première lecture, un extrait du livre d'Isaïe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Marika Wadek. Bonjour Marika.
Bonjour Marie-Madeleine, bonjour à tous.
Voilà, alors avec vous, nous allons voir pourquoi le prophète Isaïe est si important pour l'annonce de la venue de Jésus sur terre. Cet avènement de Jésus, avènement qui a donné le mot « avant » avec un « e », a été annoncé bien à l'avance par divers prophètes, dont Isaïe. Et si on se réfère au dictionnaire, un prophète est une personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. Isaïe, inspiré par Dieu, prédit la venue de Jésus, Dieu incarné, rendu visible aux hommes qui jusque-là ne pouvaient comprendre cette prophétie, d'où le terme de « vérité cachée ». Alors pour illustrer cette émission sur Isaïe, Marika, vous nous proposez aujourd'hui une œuvre de Marc Chagall,
oui,
qui se trouve au musée du message biblique de Nice.
Tout à fait.
Qui est un merveilleux musée. Avant de vous donner la parole, je m'adresse aux auditeurs. Pour trouver l'image que Marika va commenter, tapez Chagall, avec deux L, Isaïe, Nice, et vous serez en phase avec nous pour suivre cette émission. Alors, résumer la vie de Marc Chagall est une gageure, tellement l'œuvre est immense. Vous serez d'accord avec moi?
Oui, complètement, oui.
Il est né en Russie en 1887, je vais faire au plus court. Hein. Il passe une enfance heureuse dans sa famille juive. À 22 ans, il suit les cours de Léon Bakst, auteur des décors des célèbres ballets russes de Serge Diaghilev, qui ont fait fureur dans les années 20. Il vient à Paris et y découvre le fauvisme. Sa passion pour les couleurs viendra de là. Il découvre également le cubisme et côtoie les peintres parisiens de l'époque. Il revient en Russie en 1914 et y reste bloqué par la déclaration de guerre. Et il va y rester jusqu'en 1922. Donc il va vivre la révolution d'octobre, révolution russe. Et en 1922, il revient, se rend d'abord à Berlin, puis à Paris, où le célèbre marchand d'art Ambroise Vollard lui demande d'illustrer la Bible. Peinture, gouache, lithographie vont alors intéresser beaucoup de collectionneurs et amateurs d'art. Alors je saute la période des années 30 pour arriver à la guerre de 40, où il est aidé pour partir aux États-Unis et ne reviendra en France qu'en 1948, où il s'installe dans le Sud et meurt en 1985. Il a donc touché à tout, peinture, gouache, gravure, vitrail, céramique, et j'en passe.
Oui.
Voilà.
Donc
c'est un, voilà, puis c'est un artiste complet, on va dire.
C'est hein, ça.
Vraiment doué et complet. Alors Marika, je vous laisse enfin parler. Chagall vous a donc inspiré pour illustrer Isaïe.
Et oui, Isaïe, visiblement pour Chagall, c'était quand même son chouchou. Et on trouve 23 représentations d'Isaïe avec différentes techniques, mais et voilà, quand on regarde les représentations d'Isaïe, en fait, Chagall ne détient pas le record, mais enfin pas loin. Voilà.
Oui, oui. Donc, il aimait représenter les prophètes et les patriarches.
Oui, hein, voilà. Mais alors,
voilà. Oui, voilà. Dont Isaïe.
Dont Isaïe, qui est vraiment
qui prend le dessus.
Qui prend le dessus, tout à fait. Donc là, justement, dans sa toile, dans la toile qui s'intitule Le prophète Isaïe, que l'on regarde ensemble aujourd'hui. Marc Chagall a placé Isaïe quasiment au centre géométrique de la toile. Mais on reviendra à cette place. Donc on voit un homme au visage vert, aux cheveux noirs, avec une barbe fournie, une barbe de sage. Il porte un long manteau brun. Sa main droite repose sur son cœur et dans sa main gauche, on trouve l'attribut traditionnel du prophète Isaïe, hein, un parchemin déroulé.
Voilà. Et déjà écrit.
Et déjà, voilà, sur lequel on trouve déjà les paroles qui sont déjà tracées, les paroles qu'il est en train de recevoir, en fait, du messager de Dieu. Pour messager, Dieu a envoyé un ange flamboyant. Isaïe est au milieu, certes, mais l'ange domine la toile quand même. Et d'ailleurs, Isaïe ploie un genou en signe de déférence. Voilà, on voit ce mouvement.
Oui, c'est l'envoyé de Dieu, mais c'est aussi l'image divine.
Et c'est, que, voilà, qui ne
que
peut
la
pas
religion
représenter,
juive exactement. Ne peut pas représenter.
Voilà, que sont ses origines juives, peut-être l'ont retenu voilà. De représenter tout à fait. Et son expression, l'expression du prophète, laisse paraître un émerveillement intérieur, méditatif, je dirais. Alors, pour rejoindre Isaïe, ce séraphin a déployé de très larges ailes rouge-orangées. Hein. Ses bras sont tendus vers Isaïe. D'une main, il tient les épaules d'Isaïe, tandis que de l'autre, il s'approche de la bouche du futur prophète. Mais alors, que se passe-t-il précisément ?
Oui.
Même en zoomant, même en sortant sa loupe de Sherlock Holmes, pour découvrir le fin mot, je crois vraiment...
On dirait qu'il lui caresse la barbe.
On dirait qu'il lui caresse sa barbe, mais voilà, c'est pour ça, il faut vraiment...
La barbe de la sagesse, vous avez dit.
Exactement.
Hein, voilà.
Aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Mais je propose quand même de relire Isaïe, le livre d'Isaïe au chapitre 6, les versets 6 à 8. L'un des séraphins vola vers moi. Donc, c'est Isaïe qui parle.
Oui.
L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Voilà la réponse, l'engagement d'Isaïe. Donc c'est ce à quoi nous assistons hein, grâce à Chagall. Et on voit la purification d'Isaïe par ce charbon brûlant posé sur sa bouche. Désormais, il pourra délivrer les messages du Seigneur.
Oui, alors le charbon, on ne le voit pas.
Non. C'est pour ça qu'il faut relire la
il
parole.
Il est peut-être déjà dans la bouche d'Isaïe.
Ça, voilà, c'est le petit l'interprétation, la liberté
oui,
du bien regardeur.
Sûr, bien sûr.
Donc voilà pour les deux personnages centraux. Isaïe est le prophète préféré de Chagall. On l'a déjà dit et j'espère que nous aurons le temps d'en parler parce que moi, il m'a semblé qu'il y avait quand même des similitudes entre Chagall et le prophète. Mais pour continuer sur notre toile, Isaïe donc est central, mais l'artiste ne s'est pas contenté d'un portrait. Il peint aussi la portée extraordinaire de la parole qu'Isaïe est en train de recevoir sous nos yeux. Chagall possède un vrai talent hein, pour articuler les événements en s'affranchissant en fait, du temps et de l'espace. C'est ce qui rend son message certainement, c'est ce qui rend son message universel, comme celui d'un prophète.
Oui. Ouais.
Donc en haut, à gauche, en arrière-plan, derrière les ailes rouges de l'ange, apparaît la crucifixion et surtout la résurrection, qui rassemble en dessous, toujours à gauche, dans un halo violet, les nations et les peuples tournés vers le ciel, pleins d'espérance. Mais si on prend la diagonale, on regarde en diagonale en partant donc de la crucifixion et on dirige le regard vers le bas à droite, on découvre un petit espace bleu, petit, mais qui vibre d'un bleu intense. Donc là, évidemment, on se réfère à Isaïe, chapitre 7, verset 14. Il nous livre la bonne nouvelle. On sait pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, nous avons désormais l'autre prophétie essentielle.
Eh oui,
la venue
de Jésus.
Voilà. Voilà pourquoi la présence liturgique d'Isaïe pendant l'Avent et voilà pourquoi mon choix de cette toile particulièrement aujourd'hui. Donc voilà. Et puis nous terminons le tour de la toile avec le haut à droite où flotte un autre ange plus petit, plus lointain.
Blanc
immaculé. Car nous entrons dans le monde de l'espérance. Isaïe au chapitre 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon.
On voit le petit garçon. Il y a des animaux, en effet. Il y a un serpent. Le serpent qui n'étouffera pas le nourrisson. Et puis, il y a un veau.
Oui.
Voilà, on le voit distinctement. Et c'est dans un halo vaporeux.
Tout à fait.
Et c'est bien l'espérance, oui.
Voilà.
De la paix entre l'homme, la nature, qui vient de Dieu.
Exactement. Espérance de la réconciliation des créatures de Dieu. Les hommes et les femmes sont nus, signe de leur état de pureté retrouvé. Tous cohabitent sous la protection de cet ange blanc. Halo, oui, crémeux, des teintes pastel, une extrême douceur et de la joie aussi se dégage de ce paradis retrouvé.
Oui, c'est l'espérance de la venue du Dieu incarné.
Voilà, de la justice.
Il apporte la paix, la justice, l'amour éternel.
Voilà, et ce qu'on écoute là, c'est un extrait de Pacem in Terris, qui est une œuvre de Darius Milhaud, contemporain donc de Chagall. Mon choix, évidemment, ne résulte pas du hasard. et en fait, c'est une symphonie chorale qui a été que Darius Milhaud, donc lui-même juif, a choisi de créer d'après l'encyclique de Jean XXIII.
Voilà.
Et donc, en gardant le titre, hein, Pacem in Terris, donc paix sur la terre. Et donc, elle a été jouée la première fois le 20 décembre 1963, la dernière semaine de l'Avent, ce Noël 63, premier jour du procès d'Auschwitz à Francfort. Peut-être oui. Que Marc Chagall l'a entendu.
Et Jean XXIII est mort en 1963.
Oui, c'était 2 mois mmh. avant sa mort, mmh. effectivement, cette encyclique. Et voilà. Et donc, dans une conférence de 1958, Chagall déclare « La profondeur de la couleur traverse les yeux et reste dans l'âme, de la même façon que la musique entre dans les oreilles et reste dans l'âme. » Ce peintre a pratiqué le violon. Hein. Tout à l'heure, Marie-Madeleine, vous avez évoqué son enfance heureuse, épanouie.
Oui.
La musique était une partie intégrante de son environnement. Et il reste très attaché à la musique. Et en 73, quand il fera ajouter une salle de concert à son musée du message biblique à Nice, puisqu'il a eu la chance de se voir consacrer un musée de son vivant.
Oui.
Actuellement, ce musée s'appelle le Musée National Marc Chagall. Voilà. Mais avec cette œuvre de 1968, le prophète Isaïe, Chagall nous offre une histoire du salut, soutenue par l'essentiel, l'espérance. C'est peut-être dans cet état d'esprit que Chagall a placé Isaïe au centre, à la charnière, en fait, du monde d'avant et de celui à venir. Et maintenant, je vais oser un petit parallèle entre Isaïe et Chagall. Moi, il me semble que les caractéristiques suivantes s'appliquent autant à Isaïe qu'à Chagall. L'éloquence, c'est-à-dire une capacité à faire passer des messages complexes. Le courage, on peut imaginer comment Chagall a été reçu dans son environnement culturel en 1968 en France. Enfin bon, voilà, j'en dis pas plus. Le courage qui se mêle à l'obéissance puisqu'il n'a pas renié son attachement à la Bible, justement dans ce milieu un peu anti-religieux très souvent. Et bien entendu... Après, il reste, ça appartient à Dieu. Dieu seul le sait. Est-ce que Chagall avait, comme Isaïe, la sainteté, la compassion, la clairvoyance? Ça, on ne le sait pas. Mais je vais conclure juste avec, pour ma part, avec les propos de Chagall. Et il dit « La Bible, pour moi, c'est de la poésie toute pure, une tragédie humaine. Les prophètes m'inspirent, Jérémie, Isaïe. C'est de la poésie engagée. »
Merci, Marika. Mais que sait-on d'autre sur Isaïe?
Oui, alors le prophète Isaïe fait partie de ceux qui ont eu un parcours remarquable parce que effectivement il fait partie de ceux qui ne sont pas partis en exil. Alors il naît à Jérusalem vers 760 avant Jésus-Christ.
Oui.
Et donc il est dans le royaume de Juda à une époque très troublée socialement, politiquement. Enfin,
oui, voilà, c'est l'époque de l'exil à Babylone.
Voilà.
Nabucodonosor envahit le royaume de Juda et voilà. Et donc, il a pris des prisonniers, il a fait des prisonniers en grand nombre, mais il n'a pas pris tout le peuple, bien sûr. C'est pas possible. Mm. Et certains prêtres en particulier sont restés en Palestine, enfin en future Palestine. Et dont Isaïe.
Dont Isaïe, voilà. Donc, c'est un, en fait, c'est un notable. Il est donc,
oui.
De ce fait, c'est devenu aussi, enfin, resté à Jérusalem et avec son statut de notable. Donc, il est entendu déjà. Il a déjà l'oreille de personnes importantes. Donc, dans ses prophéties, il annonce les malheurs qui vont s'abattre sur le royaume de Juda. Parce que le peuple et la cour vivent effectivement en dehors du dessein de Dieu, en dehors du plan de Dieu, diraient certains maintenant. Et ce qui est remarquable, c'est que 7 siècles avant la venue du Christ, Isaïe annonce aussi la naissance de l'Emmanuel, hein, comme
oui.
Nous l'avons lu tout à l'heure, mis au monde par une vierge. Voilà.
Mm-hmm. C'est vérité cachée.
Vérité cachée.
Ça viendra 7 siècles plus tard. C'est long pour une vie d'homme.
Et oui.
Mais au regard de Dieu, c'est rien.
Voilà, puisque nous avons réussi à recevoir ce message nous-mêmes
oui.
aujourd'hui encore.
Oui, oui.
Voilà.
Mais Dieu a tout son temps.
Voilà. Et Isaïe, d'ailleurs, signifie le Seigneur sauve. Voilà, c'est le sens de son nom. Et donc c'était un prophète, on le disait, un notable, il était proche de la cour du roi David et il prononçait donc des oracles régulièrement. Donc son livre est une caractéristique assez particulière, c'est qu'en fait il a quand même 66 chapitres hein, au total, il recouvre donc plus de 2 siècles. On pense que plusieurs prophètes, donc forcément, ont contribué à
oui.
l'élaboration de ce livre. Quand on commence le livre, on découvre un cadre historique bien précis. Et puis, à partir du chapitre 40, le contexte change complètement. Voilà. Donc, je dis ça pour donner l'envie aux
auditeurs de lire le livre d'Isaïe.
Voilà. Et il incarne vraiment l'espoir de la venue d'un sauveur qui accomplira les promesses que Dieu a faites à son peuple, d'un monde de justice et de paix, comme l'encyclique de Jean 23 le revivifiait et comme Darius Milhaud l'a illustré à sa manière
oui.
en musique, comme
Hachem
on l'a entendu.
Interis, la paix sur terre.
Hein. Voilà.
Oui. Alors on peut signaler que le livre d'Isaïe a été retrouvé parmi les manuscrits de Qumran et que c'est le seul livre redécouvert, si on peut dire, qui soit entier. Et il se trouve donc au musée de la Bible à Jérusalem, qui est un très beau musée architecturalement, qui est tout rond et blanc. Et il fait partie des collections évidemment de ce musée maintenant. Il a été déchiffré parmi d'autres manuscrits. Et ces manuscrits de Qumran ont été découverts en 1947 dans les falaises de Masada, etc., enfin au bord de la mer Morte. Et par des bergers qui ont découvert des urnes.
Décidément, les bergers
voilà.
ont la main heureuse.
Et oui, 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 c'est peut-être un signe. Le message s'adresse d'abord aux bergers.
Voilà.
Et donc il y avait beaucoup de manuscrits abîmés hein, et incomplets, mais celui-là,
bon, il était là pour.
Il était complet.
Pour nous
voilà.
parvenir
oui.
entièrement.
Alors on peut revenir peut-être, Marika, sur la toile de Chagall, pour parler peut-être, vous avez évoqué éventuellement la couleur de l'ange,
oui.
pour évoquer donc les couleurs de, de cette toile. L'ange est flamboyant, en effet, il est
tout
rouge.
Fait. Il est flamboyant,
il est
largement déployé, ses ailes sont largement déployées.
Voilà, il est rouge, donc c'est le signe de la divinité, du Dieu, hein, de Dieu. Et on peut dire donc évidemment que c'est l'ange ardent, c'est-à-dire plein d'amour, hein, plein d'amour pour les humains. Et puis aussi, c'est peut-être le symbole aussi du charbon ardent.
Oui, peut-être une petite...
Du charbon brûlant. Enfin bon, ça c'est peut-être tiré un peu par les cheveux. Voilà, et puis de l'autre côté, donc ça on en a parlé, de l'espérance qui est beaucoup plus claire. oui. du côté droit qui marque la vie, en fait, voilà. hein, par rapport au côté gauche où il y a la crucifixion, qui est un signe de mort. Mais de l'autre côté, il y a l'espérance de la résurrection.
Exactement.
Avec la venue de Jésus qui ressuscitera.
Et c'est vrai que les deux se côtoient.
Oui.
Hein, donc,
mais il y a bien le contraste entre la gauche et la droite oui. du tableau. Hein.
C'est ça. Parce que, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Isaïe est placé au centre, mais oui. en fait, c'est une charnière. Quoi.
C'est ça.
C'est vraiment une charnière entre oui. le monde.
On dirait maintenant une interface.
Voilà, c'est hein, ça.
C'est ça. Entre finalement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Voilà. Qui n'est pas tombé en panne, lui, par
voilà.
contre.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà pour ce très beau tableau de Chagall. Merci de l'avoir choisi.
Avec grand plaisir.
Parce que Chagall est très symbolique. Et,
mystique.
Et il est mystique, oui, bien sûr. Mmh. Et le message passe.
Exactement.
Si on veut bien le regarder.
Voilà. Donc,
si on veut bien le voir.
C'est une invitation, chers
voilà,
auditeurs.
Absolument. Merci beaucoup, Marika,
merci, hein,
de nous
merci
avoir évoqué Isaïe, parce qu'évidemment, Isaïe, c'est un personnage très, très important.
Ah oui,
mais
je vous dis,
on ne peut pas tout dire non plus.
Chagall ne s'est pas lassé de le représenter.
Voilà. voilà. Merci à Imanol qui tenait les manettes de la technique. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui nous écoutez fidèlement. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro d'Art Sacré. Donc à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Art Sacré, Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.